France Info. Bonjour Hervé Morin.
Bonjour Marc Fauvel.
Vous étiez hier soir à la réunion initiée par Gérard Larcher de la droite et du centre. À quoi a-t-elle servi précisément ?
D'abord, elle a permis, je souhaitais cette réunion, hein, bien avant les résultats, pour tout vous dire. Je disais à Gérard Larcher que compte tenu de ses fonctions, il devait être celui qui remet tout le monde autour de la table. On peut pas vouloir construire une alternative et continuer à vivre des vies parallèles, si je puis dire. Et donc, il fallait que toutes celles et tous ceux qui veulent incarner une alternative, disons-le pour 2022, soient en mesure de se reparler, de rebâtir quelque chose. D'ailleurs, c'est la condition sine qua non pour que ça marche. Derrière cette question d'alternative, est-ce que je peux simplement vous dire une chose ? Alors, les Français forcément se disent, bon, ils pensent à eux, ils pensent à leurs histoires, etc. Il y a tout de même là, je le disais hier soir au camarade qui est autour de la table, derrière notre capacité à rebondir, il y a pour nous une question démocratique fondamentale. Est-ce que la France a pour destin de vivre le cauchemar italien ? Le cauchemar italien, c'est-à-dire l'arrivée du Front National pour nous, du Rassemblement National. Parce que la manipulation, ou tout du moins l'opération menée par Emmanuel Macron, pour ne pas trop la qualifier, a été réussie pour lui. Très bien. Il a su mobiliser contre le Rassemblement National. On va faire un mauvais score. Mais j'invite simplement vos auditeurs à se poser la question suivante. Le PS est effondré. La droite et le centre sont en difficulté, disons-le. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le moment où on considère qu'Emmanuel Macron doit sortir, ou sa majorité, qu'est-ce qui reste comme choix aux Français ? Le Rassemblement National ?
C'est-à-dire que s'il échoue, c'est la victoire du Rassemblement National qui est programmée à vos yeux.
C'est l'équation dans laquelle on est si nous ne sommes pas capables d'incarner une alternative en 2022. En clair, il restera pour les Français moi ou le chaos. Et je vous dis, on n'est pas si loin du chaos, si je puis dire, c'est-à-dire du Rassemblement National. Donc, ce jeu d'apprenti sorcier qui consiste à considérer que pour rester au pouvoir, on reste dans un face-à-face avec le Rassemblement National, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie française.
Vous disiez-vous déjà, Hervé Morin, que la droite et les centres, ce qui était important hier, c'était que vous recommenciez à vous parler.
Oui.
Ça veut dire que c'était comme après un traumatisme, un peu une psychothérapie de groupe, groupe de parole un petit peu.
Je voudrais qu'on relativise le
8%, 8% le résultat de la droite et du centre, en tout cas de la liste que vous souteniez aux européennes.
Nous sommes d'accord. Bon. Je voudrais qu'on relativise. Moi, j'ai des souvenirs, malheureusement, ce sont mes cheveux gris qui me permettent de les avoir. J'étais dans un gouvernement où je me souviens d'un chef de l'État dans le salon vert à côté du bureau du président de la République, disant « on a gagné les européennes, c'est formidable ». On avait fait un petit peu moins de 30%. C'était en 2009.
C'était Nicolas Sarkozy.
Oui, vous l'avez compris. Je n'étais que dans ce gouvernement. En 2010, on s'est pris une raclée monumentale au régional. Considérer que les ressorts politiques d'une européenne et d'élections locales sont les mêmes, c'est une erreur fondamentale.
Et à l'inverse, Nicolas Sarkozy en a pris une aussi, de racler, pour reprendre votre expression, et il a été élu président quelques années après.
Et en 1999, il prend une raclée, il fait 12%, et il est élu, quoi, on gagne les présidentielles.
Donc la droite bouge encore dans ce pays, elle a encore un socle électoral, et vous pouvez vous relever d'ici l'élection présidentielle.
Nous avons souffert d'un double vote utile. Le premier vote utile qui a été ceux qui se sont dit on va donner une leçon au président de la République et qui nous ont quittés pour aller vers le Rassemblement National, et ceux qui ont dit nous on va éviter que le Rassemblement National soit en tête et donc on va voter Macron.
Pour en revenir, Hervé Morin, à ma première question, à quoi a servi la réunion hier soir, donc, à part
réunion,
à se faire du bien et à se reparler.
J'ai beaucoup de se reparler, j'entends. Hein. Deuxième chose, moi je dis clairement la question de ce que nous allons bâtir, c'est-à-dire ces conventions régionales, départementales et locales, puis une convention nationale, ça ne doit pas simplement nous amener à préparer les municipales, c'est un peu court. Ça ne doit pas simplement devenir un moyen, grosso modo, de sauver la majorité au Sénat.
C'est un peu l'intention de Gérard Larcher ?
Non, pas du tout. Mais je le dis parce que c'est des choses que j'ai entendues dans la bouche.
Une convention en octobre seulement, effectivement, la préparation des municipales. Ce sont les grands électeurs désignés aux municipales qui ensuite élisent les sénateurs.
Ce sont déjà des délais extrêmement courts. Quand l'espace de 4 mois, on soit capable de rebâtir un projet et bâtir ce qu'on a appelé une grande alternance, C'est pas...
Là, c'est pas bâtir un projet, c'est organiser une réunion hein, dans 4 mois.
Non, c'est pas
le
ça.
Projet, il sera bouclé début octobre.
L'idée, c'est que on soit sur la capacité de présenter un projet aux Français. Qu'est-ce qui nous distingue? Quelle est la troisième voie qui existe entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National? En clair, aller à la rencontre des forces vives du pays, les associations, le monde de l'économie, le monde des corps intermédiaires, des syndicats, etc. Et bâtir avec eux ce que pourraient être les grandes lignes d'un projet politique. C'est pas une petite histoire. La question des prochains mois pour nous, c'est qui sommes-nous avant de, que portons-nous comme projet? Moi, on peut pas simplement être sur l'identité et la civilisation.
Ça, c'est pour la ligne Wauquiez.
Non, mais attendez. Oui. La droite et le centre droit ont été écolos. Rappelez-vous le Grenelle de l'environnement de Jean-Louis Borloo. Il a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale.
Où était l'écologie
nationale.
Dans la campagne des européennes la liste que vous avez soutenue?
Deuxièmement, face à un gouvernement centralisateur qui a oublié que la modernité, c'était des pouvoirs locaux, proximité des citoyens, ce qu'ont demandé les Gilets jaunes. Nous devons être le parti où l'alternative décentralisatrice d'une réforme en profondeur des systèmes de gouvernance publique. Troisième sujet, la laïcité. On doit être aussi un parti capable de porter une laïcité.
Donc elle n'avait rien de centriste, la campagne de François-Xavier Bellamy européenne, à vous écouter. L'écologie, la laïcité, c'est pas des thèmes qui ont été portés dans cette campagne.
En même temps, si vous vouliez bien l'entendre, parce que moi j'ai beaucoup aimé le discours de François-Xavier Bellamy, parce que je le trouvais intelligent.
Vous aviez même dit il y a quelques semaines dans la campagne qu'il devrait atteindre presque 20%. Vous avez dit qu'il sera plus près de 20% que de 15%.
Je le croyais, sauf que, bon, je suis trompé.
C'est-à-dire qu'il remplit les salles, mais il vide les urnes, pour reprendre une expression.
Oui, je suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui vide les urnes.
Les meetings faisaient le plein pendant la campagne, et pourtant vous avez terminé à 8%.
Parce qu'il y a eu une mobilisation, comme je vous l'ai expliqué, donc on va pas refaire la campagne européenne. Non, j'allais dire, on s'en fiche maintenant, c'est pas ça le sujet. Ce que je crois, c'est que d'abord, on doit dire aux Français, voilà ce que représente cette troisième voie que nous voulons incarner. Une droite et un centre girondin, décentralisateur, une droite et un centre capable de porter un projet environnemental. On le fait tous dans nos régions. On a tous des politiques. Je prends un exemple simple. En Normandie, nous avons décidé de porter l'expérimentation de 50 exploitations sans glyphosate. En clair, bâtir une expérimentation suffisamment forte et solide qui va permettre globalement d'acquérir suffisamment d'expérience, d'enseignement pour pouvoir porter cette transformation que représente le glyphosate. Nous avons 6000 exploitations agricoles en Normandie qui sont en train de rentrer dans une démarche de développement durable. Je suis une région dans laquelle on porte l'hydrogène. Nous sommes une des régions européennes reconnues comme telle. Bien, on doit être capable tout de même de démontrer qu'on n'est pas ceux qu'on veut bien souvent nous caricaturer.
Et que l'écologie, ça commence pas à bien faire, comme le disait il y a quelques années Nicolas Sarkozy. 8h41, pardon, on doit s'interrompre. Hervé Morin, le temps du rappel de l'actualité avec David Doba et on poursuit cet entretien juste après.
11 millions d'euros, l'audit interne mené par Renault-Nissan au sein de leur filiale commune met en avant des dépenses suspectes de Carlos Ghosn. Il s'agirait de surcoûts de déplacement et de dons faits à des associations. Ce matin, Bruno Le Maire affirme que l'État va transmettre à la justice tous les éléments dont il dispose sur l'ancien patron de l'Alliance. Le 6 juin 1944, ils avaient joué un rôle clé dans la libération de l'Europe. 300 vétérans survivants du débarquement mis à l'honneur à partir d'aujourd'hui à l'occasion des commémorations. Plusieurs cérémonies sont prévues, notamment à Portsmouth, en présence d'Emmanuel Macron, de Donald Trump, d'Angela Merkel ou bien encore de la reine Elisabeth II. 55 personnes portent plainte dans l'affaire de la cagnotte de Christophe Détinger, cet ancien boxeur gilet jaune qui s'en était pris à des CRS. Litchi, la plateforme sur laquelle avait été lancé l'appel aux dons, avait finalement bloqué les 130 000 euros récoltés. Les plaignants dénoncent une rétention abusive des sommes. En Australie, à présent, le cardinal Peel, de nouveau devant la justice, l'ancien conseiller du pape François, ex-trésorier du Vatican, comparé en appel pour abus sexuels sur mineurs. En mars dernier, il avait été condamné à 6 ans de réclusion. Et puis, on l'a appris il y a quelques minutes, le décès de l'ancien patron de l'UEFA, Lennart Johansson, est donc mort à l'âge de 89 ans. Il avait été à la tête de l'organisation entre 1990 et 2007.
France Info.
Le président des centristes de la région Normandie et de l'association des régions de France, Hervé Morin, est notre invité. Jusqu'à 9h, vous plaidez, Hervé Morin, pour que la grande famille de la droite et du centre se réunisse à nouveau. On l'entend depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer d'abord par votre propre famille, les centristes qui sont aujourd'hui éclatés, eux aussi, façon puzzle, comme on dirait au cinéma, entre les centristes, l'UDI, le MoDem, même les centristes ne sont pas capables de parler d'une même voix en France. Et ça vous fait tousser.
Oui, non, mais je veux dire, bon, voilà, on est ainsi fait, voilà.
Je veux dire que c'est normal que les centristes se déchirent depuis toujours, c'est leur raison d'être.
Non, c'est pas leur raison d'être. Ce sont des personnes qui, voilà, sont des individus, des personnalités qui aiment leur indépendance, aiment, voilà, on n'est pas fabriqué sur le modèle de la meute. Moi, je déteste les phénomènes de groupe et de meute. Voilà.
Donc, il y a des centristes aujourd'hui chez Emmanuel Macron. Il y a des centristes qui roulent pour eux-mêmes, Jean-Christophe Lagarde aux européennes. Et il y a des centristes qui sont dans l'aile droite. Ça vous embête pas plus que ça?
Écoutez, François Bayrou a fait des choix. On va pas refaire l'histoire. Il a soutenu François Hollande, etc., etc. Enfin bon, donc tout ça est assez naturel. Et puis, il a soutenu Emmanuel Macron. Moi, j'ai soutenu ce que je crois, c'est que quand on est du centre et du centre droit, on a un certain nombre de valeurs qui nous amènent à être en accord avec un parti de droite. C'est ainsi qu'on a été, qu'on a porté la politique pendant 50 ans. Bon, chacun ses choix. Puis voilà,
mais quoi. Justement, parlons du fond, au-delà des.
Oui, vous dites.
Ben voilà, vous dites, les centristes, nous ne sommes pas une meute, etc. Il y a des choix personnels.
Oui,
des choix
individuels. Je veux dire, vous citez
François. Mais parlons justement du fond, Hervé Morin. La majorité vous lance des appels du pied. Sur le fond, d'ailleurs, y compris au sein de LR, il y a certains élus qui considèrent que l'opposition systématique, ça suffit, qu'il faut parfois approuver des projets de gouvernement. C'est ce qu'a déclaré le maire de Nice, Christian Estrosi.
Et il fallait plutôt se mettre dans une stratégie où on soutienne clairement les réformes dont notre pays avait besoin, où on soit opposé à celles qui ne correspondent pas à notre projet et à notre vision de notre société, mais pas de manière sectaire. Et donc c'est ce sectarisme-là qui a été sanctionné dimanche.
Hervé Morin, le centre aujourd'hui...
Christian Estrosi a raison.
Ben, le centre aujourd'hui, il est chez Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous distingue sur le fond de la politique du gouvernement? Vous pourriez par exemple soutenir la réforme des retraites, la retraite
par
points.
Mais vous rigolez, mais je l'ai soutenue cette réforme.
Et donc vous la voterez quand elle sera présentée?
Enfin, je ne vote plus au Parlement, comme vous le savez.
Vous incitez vos élus,
Mais je rappelle que j'ai défendu la réforme de la SNCF, que j'ai défendu la réforme du travail... Et d'ailleurs, je crois que les LR ont dû voter ces deux réformes et que mes amis politiques au Parlement les ont votées aussi. Un certain nombre de régions vont commencer à ouvrir à la concurrence les lignes ferroviaires et donc faut pas
la privatisation d'Aéroports de Paris, LR, s'associe à la demande d'un référendum. Écoutez, contre cette privatisation. Vous êtes hostile à cette privatisation d'Aéroports de Paris?
Moi, je suis aussi hostile à la privatisation d'Aéroports de Paris. Alors...
Comme les Insoumis, comme Jean-Luc Mélenchon.
Et alors, si parfois on a des points communs, je ne veux pas non plus voter, me dire, parce que je me retrouve avec Mélenchon avec qui je partage quasiment rien, je vais refuser de rester, de dire ce que je crois. Je rappelle, dans ce cas-là, que François Bayrou devrait être le premier opposant à la privatisation d'Aéroports de Paris. Je vous rappelle que j'ai défendu avec lui l'idée que la privatisation des autoroutes était un scandale en termes de gestion des deniers publics.
À l'époque du gouvernement Villepin, oui.
À l'époque du gouvernement Villepin. Je rappelle qu'Aéroports de Paris, compte tenu des dividendes que ça crache chaque année, c'est une bonne affaire pour l'État et que c'est un établissement qui marche. Mmh. Et donc je ne vois pas pourquoi un établissement qui dégage autant de dividendes et de résultats, on viendrait à le céder au privé pour créer une rente. Bon, pardon, et si on se souvient de l'échec de la privatisation d'aéroports provinciaux, et notamment celui de Toulouse qu'on évoque en permanence, je trouve qu'il y a au moins besoin de s'interroger sur cette privatisation, surtout quand c'est pour vous expliquer que vous allez financer je ne sais quelle dépense publique, alors qu'aujourd'hui vous empruntez à des taux qui sont quasiment négatifs.
Ce matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, confirme il y a quelques instants que la Française des Jeux, également sera bien privatisé d'ici la fin de l'année. Ça vous embête ou pas?
Non,
c'est pas grave.
C'est pas le même sujet. Dès lors qu'il
y a pas d'intérêt national.
Attends, non, pas la même chose. Enfin, pas pour moi. Bien entendu, il faut qu'il y ait des mécanismes de régulation. Il faut qu'il y ait la capacité pour l'État de dire stop, notamment face à des phénomènes d'addiction au jeu, de contrôle de recyclage de l'argent sale, etc. Mais sorti de là. Je vois pas pourquoi on se refuserait à privatiser la Française des Jeux. Il n'y a pas d'intérêt stratégique comme Aéroport de Paris, qui gère une plateforme aéroportuaire qui est parmi les premières plateformes aéroportuaires du monde.
Donc si on met à part le dossier Aéroport de Paris, vous avez évoqué la réforme des ordonnances, enfin les ordonnances sur le code du travail, la réforme de la SNCF, la réforme des retraites, la laïcité, l'écologie, autant de thèmes qui pourraient conduire, qui pourraient vous conduire à rejoindre la majorité.
Est-ce que je peux aussi indiquer qu'il y a des...
Sur le fond, c'est quoi ce qui vous oppose à la majorité
d'Emmanuel
Macron ?
Je vais vous donner des exemples. Je suis président de l'Association des régions de France. Le chef de l'État a vendu, durant la campagne présidentielle, l'idée que tout ne pouvait pas se décider à Bercy et à l'Élysée. Il a fait exactement le contraire. Tous les pays européens sont bâtis sur un modèle décentralisé, de régions autonomes, capables de porter des politiques innovantes, de pouvoir porter des expérimentations, d'adapter les politiques à des territoires qui ont des problématiques différentes. On a besoin d'avoir un pouvoir qui est à proximité de nos compatriotes sur les sujets de proximité.
Il ne s'est pas amendé avec le grand débat national. Ne s'est pas amendé. Vous ne croyez pas à son changement, à sa métamorphose ?
On verra. Moi, je prends un exemple. J'ai combattu la réforme de l'apprentissage. On nous a expliqué que les régions n'étaient pas capables de faire. Aujourd'hui, vous avez tous les membres du gouvernement qui disent « c'est génial, l'apprentissage augmente en France ». Pardon, c'est encore la compétence des régions. En Normandie, l'apprentissage a augmenté de 17% en 2 ans. C'est l'action de la région que je préside. À partir du 1er janvier 2020, ce sont les grands groupes privés qui vont gérer l'apprentissage dans un système... De loi du marché qui va amener, je vous l'écris tout de suite, la disparition de l'apprentissage dans les zones rurales, dans les zones où les bassins d'emploi et les bassins démographiques sont faibles et dans les quartiers difficiles. Je m'oppose à cette réforme qui est une réforme où on confie, où on laisse les grands groupes gérer demain l'apprentissage.
Sur la limitation de vitesse à 80 km/h, un dossier qui a suscité notamment la colère des Gilets jaunes, le gouvernement s'est amendé, il veut maintenant laisser au département la possibilité d'y déroger. Est-ce que, effectivement, vous approuvez ce changement ?
Très bien, mais je vous rappelle qu'Édouard Philippe a tenu pendant un an un discours exactement contraire.
Vous souhaitez que toutes les routes de Normandie reviennent à 90 ? Même si c'est pas de votre sort, c'est le département qui tranche.
Écoutez, moi je fais 15 000 km par mois, j'ai un bilan carbone absolument dramatique.
Vous avez un chauffeur, je pense.
Heureusement, parce que sinon, je ne peux plus travailler. Voilà. Non, mais ça, j'ai un bilan carbone.
Oui.
Enfin, ça n'a rien à voir avec qui conduit la voiture. Mais y a des routes qui sont tellement bonnes que rouler à 80 km/h, ça n'a pas de sens.
Donc, on va avoir des tronçons à 80, d'autres à 90 sur les mêmes routes entre deux villes, Normandie.
Écoutez, Marc Fauvel. C'est les départements qui décideront. Mais enfin, très franchement, si vous prenez une route et que vous faites 20 km, vous avez des passages à 30, des passages à 50, des passages à 70, vous avez déjà 36 changements.
Il y en aura 38.
Bon, voilà. Enfin...
Vous restez avec nous, Hervé Morin. On s'interrompt pour le rappel de l'actualité. 9h10, David Doba.
75e anniversaire du débarquement de Normandie avant d'être en France. Demain, Emmanuel Macron et Donald Trump sont au Royaume-Uni, à Portsmouth précisément. C'est de là que s'étaient lancés les soldats le 6 juin 44. 150 000 alliés avaient pris pied sur le sol français. 10 000 avaient été tués ou blessés. La justice s'intéresse à Rachida Dati et à Alain Bauer. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet national financier. Une actionnaire de Renault a porté plainte pour abus de biens sociaux et corruption active et passive. Ils auraient tous deux passé des contrats avec la filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan. Gérard Larcher annonce la tenue d'une grande convention nationale. Ce sera en octobre. Dans les prochains jours, ce sont des conventions régionales qui doivent se mettre en place. Un objectif évidemment, donner un nouvel élan aux Républicains. Éric Drouet comparé aujourd'hui pour port d'armes prohibées et participation à un groupement en vue de violence. Cette figure de proue des Gilets jaunes avait été interpellé le 22 décembre avant d'être placé sous contrôle judiciaire. Et puis Amnesty International appelle la France à mettre fin au harcèlement et aux agressions à l'encontre des défenseurs des droits humains qui aident les migrants, que ce soit à Calais ou bien encore à Grande-Synthe. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONG publié aujourd'hui.
Question à l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin, avec Renaud Dely.
La France, l'an dernier, Hervé Morin, a vu ses ventes d'armes, ses exportations d'armes s'envoler plus de 30%. Est-ce que vous dites, cocorico, est-ce qu'il faut se féliciter que la France obtienne de tels résultats en la matière ?
J'ai aussi beaucoup porté l'exportation des ventes d'armes quand j'étais au gouvernement. On a fait des très belles années, notamment, je crois, en 2009, on avait dû faire 7 milliards avec un très gros contrat avec le Brésil. C'est toujours une équation compliquée, mais il faut que nos compatriotes sachent qu'on a besoin de ces exportations. Si on n'a pas ces exportations, notre industrie de défense s'effondre, parce que ça nous permet de pouvoir financer notre base industrielle et technologique, ça nous permet de financer nos propres programmes. C'est parce qu'on vend le Rafale qu'on a plus de facilité à pouvoir réussir l'équation qui est d'équiper nos forces.
Dans cette équation, quel doit être le poids des droits de l'homme ?
Non mais attendez, oui. Parce qu'il faut bien comprendre ça, c'est que nous avons, notre commande publique est trop faible face notamment aux Américains pour que nous puissions porter tout seuls les programmes d'armement. Deuxième élément, puis après j'en viens à votre question. Deuxième élément, on a besoin de bâtir une base industrielle et technologique européenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de briques technologiques qui sont dans les mains des Américains. Or, les Américains, à travers ces briques technologiques, peuvent nous empêcher d'exporter un certain nombre de matériel de guerre. Quand nous vendons au Qatar ou à l'Égypte, on est obligé de demander l'accord aux Américains. Il faut le savoir. Et donc, on aurait besoin de bâtir un programme européen qui nous permette d'être complètement indépendants des Américains.
Et quand on vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui les utilise très probablement, en ce moment même, au Yémen, et encore plus probablement, sans doute, contre des civils.
Eh bien, il faut absolument pouvoir demander aux Saoudiens exactement ce qui se passe.
On vend des armes et ensuite on leur demande à quoi elles servent.
Non, des armes, on en a vendu à l'Arabie Saoudite en permanence. Ce que je veux dire, c'est que face aux commandes de l'Arabie Saoudite, on est en droit d'avoir un droit de contrôle sur ces questions.
C'est ce que dit le gouvernement aujourd'hui. Il dit, nous avons la certitude, nous avons des garanties de la part de l'Arabie Saoudite que les armes que nous leur avons vendues ne sont pas utilisées au Yémen et ne sont pas utilisées pour tuer des civils. Est-ce qu'on peut croire le gouvernement lorsqu'il dit, nous avons ces garanties de la part de l'Arabie Saoudite ?
Vous savez, quand vous êtes au gouvernement, si vous mentez, vous êtes vite rattrapé par la patrouille.
On peut faire confiance au régime saoudien, en l'occurrence. S'il dit, on ne sert pas de ces armes...
Je fais suffisamment confiance au système de renseignement français pour qu'on puisse avoir un peu une idée de ce qui s'y passe.
Donc on sait qu'ils ne s'en servent pas au Yémen, d'après vous.
Je vois pas. Écoutez, j'ai été mis à défense, donc je me vois pas aujourd'hui mis à défense. Vous faire des déclarations comme celle-ci pour 15 jours ou 3 semaines après me retrouver confronté au contraire de ce que j'ai déclaré.
Hervé Morin, vous serez demain en Normandie pour y accueillir notamment Donald Trump dans le cadre des commémorations des 75 ans du débarquement allié. Est-ce qu'il est devenu à mi-mandat un président respectable, un partenaire respectable?
Je suis profondément opposé au combat qu'il mène contre le multilatéralisme, au système de sécurité collective. Nous avons besoin de ces mécanismes-là pour essayer d'assurer la paix. Il est le président des États-Unis. Sans les Américains, nous n'aurions pas retrouvé la liberté. L'Europe n'aurait pas pu refonder ce qu'elle est devenue, et donc il doit être accueilli avec le ce qu'il représente. Il est le président d'un pays qui est un pays ami et allié.
On fait avec.
Il doit avoir, il mérite les honneurs et le rang que représente le président d'un pays qui a été allié et ami dans toute l'histoire de la France.
Je vais vous poser la question autrement, Hervé Morin. Est-ce qu'il y a du bon aujourd'hui dans le bilan de Donald Trump ? Est-ce qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer ici ? Quand vous voyez notamment sa courbe de popularité qui est au plus haut, lui qu'on disait quasiment condamné au purgatoire pendant 4 ans quand il est arrivé à la Maison Blanche.
J'ai pas de sujet sur lesquels je pourrais vous dire que je me retrouve
dans son patriotisme économique, par exemple, dans sa défense des intérêts industriels à tout prix.
Que nous ayons, faudrait pouvoir avoir une radiographie précise du sujet que je n'ai pas.
Dans son attitude à l'endroit de la Chine, dans son opposition et dans la guerre commerciale qu'il a déclarée à la Chine, est-ce qu'il fait pas preuve d'une lucidité, Donald Trump, dont les Européens pourraient peut-être faire preuve?
C'est ce que j'allais vous dire. Mais, oui, probablement. Mais je me méfie des déclarations publiques et de la réalité des politiques. Je suis pas assez attentif à l'équation sino-américaine pour pouvoir vous dire si on est simplement dans la posture ou si on est réellement dans la mise en œuvre de politique sur ce sujet-là. Mais il est clair qu'il appartiendrait aux Européens d'avoir autant de fermeté et de solidité face notamment aux Chinois.
Sur un tout autre dossier, Hervé Morin, le gouvernement s'est engagé à faire passer la réforme de la PMA, l'extension de la PMA à toutes les femmes d'ici la fin de l'année. Des voix commencent à se faire entendre, y compris au sein de la majorité, pour éventuellement repousser cette réforme après les municipales. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes ?
Oui.
Et est-ce qu'il faut le faire avant la fin de l'année, donc avant les municipales ?
Est-ce que c'est pourquoi ce serait avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine?
Le gouvernement s'y était engagé.
Bon, voilà. Je veux dire, l'essentiel, c'est que ce débat puisse avoir lieu, que ça puisse avoir lieu dans des conditions sereines. Je suis absolument hostile à la GPA, qui pour moi est quelque chose d'absolument abominable, qui conduira à toutes les dérives possibles. Je suis en revanche favorable à la procréation médicale assistée, ouverte à toutes les femmes sans aucun doute.
Merci à vous Hervé Morin, président des centristes de la région Normandie et de l'Association des régions de France. C'était ce matin avec nous l'invité de France Info.